Fernando Cristão 2016, c'est un génie!
Et c'est... Bye-bye de bye-bye! Deux fois ça, c'est bye-bye!
Chut! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but!
Et troisième
et but!
But
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute!
Chute de Mélodie, juste devant Franck, Franck est parti dans le terrain.
C'est le château qui est parti. L'Express, le TGV est parti. Record du monde.
Pédalage et défonçage sans les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh ben bonjour, c'est le Café des Sports en direct, un peu laborieux ce jour, et ce n'est pas pour la fois une fois la faute de Gonzalo, c'est complètement moi qui j'ai plus l'habitude de prendre les boutons ici, c'est un peu nouveau, ou c'est une nouvelle technologie. Bonjour Gonzalo.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Damienski.
Bonjour.
Et oui, aujourd'hui, Bernardo n'est pas parmi nous, mais vous aurez quand même la lettre E d'une manière différente. Au programme, on retrouvera les résultats locaux, du basket, du rugby, et puis on parlera avec les joueurs de la LM Basket qui vont arriver d'ici une bonne demi-heure, peut-être de leur premier match, qui nous présente les nouveaux joueurs, la formule du championnat pour cette saison 2010-2011, le tout en musique. Et on enchaîne tout de suite avec un petit morceau, monsieur Gonzalo.
Ouais, Breaks.
Desert when the seeds were sown.
Et ben voilà, un premier titre au Café des Sports. Moi, ce week-end, j'ai pas été voir beaucoup de sport. J'en ai fait un peu, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Un peu.
Et puis, Damienski, toi, t'as été voir quoi ?
Je me suis plutôt tenu au courant de certains résultats, en l'occurrence basket région, ça me tenait à cœur avec la LM et Netreville. Donc j'ai glané des infos, après je n'ai pas été sur le terrain, ni pratiqué, ni regardé de près ce week-end.
Moi j'ai fait du sport samedi soir à l'abordage, j'ai sauté partout comme un petit fou.
Ah, il semblerait que c'était pas loin des 50 degrés.
Ah c'était torride.
Dans l'abordage club.
Allez Gonzalo, et vous, qu'est-ce que vous avez vu ce week-end ?
Ce week-end, c'était le sport sur ordinateur ou le sport pour de vrai. Donc, je me suis essayé aux deux ce week-end. Après plusieurs tentatives, je suis arrivé sur le site de la LNV Live. Est-ce que vous savez ce que c'est que LNV Live ?
Oui.
Donc, c'est Ligue Nationale de Volley Live en direct, hein, c'est ça. Pendant une bonne demi-heure, je suis resté comme un gland devant ce truc-là, comme un autiste en fait. J'ai cliqué partout, il n'y avait rien qui marchait. Clic droit, clic droit, clic gauche, et puis clic droit, c'est parti. Donc, l'intérêt de regarder une rencontre de l'EVB télévisée ou webisée se trouve dans les ralentis, les angles opposés, tout ça. Et les commentateurs, là, il y avait Fabrice Vial, qui est quand même le sélectionneur de l'équipe de France, bon, ce qui apporte quand même une plus-value aux commentaires. Le lendemain, j'ai regardé Stade Français Nancy, histoire de voir le prochain adversaire de l'EVB. Et c'était le président de la Ligue, Jean-Paul Allorot. Vaut mieux le technicien que le politicien. Bon, honnêtement, l'intérêt de regarder ça sur ordinateur ou à la télé, c'est qu'on alourdit pas son bilan carbone. Et puis ça permet la possibilité à d'anciens ébruitiens de regarder ça à travers le monde.
Et puis, ouais, t'as peut-être pas eu en plus du mal à te garer cette année, parce qu'apparemment c'est la spécialité des matchs parisiens.
C'est un peu ça. Mais alors sinon, le constat c'est qu'on sent pas la balle, on sent pas la salle, on n'entend pas le bruit du ballon, il n'y a pas de vibration.
Ça sent pas la sueur.
Ça, voilà, c'est difficile de capter le regard des joueuses, et puis surtout, on n'entend pas Fouché brailler. Ça c'est incontestable. Dimanche par contre, dimanche, je suis allé auprès Margot, et par la volonté des éléments déchaînés, une petite pluie fine, je suis allé dans la tribune populaire de l'EAC. Tu vois laquelle je veux dire, la tribune populaire ?
Ouais, je la vois, ouais.
Surtout que...
Il y a le choix en plus en termes de tribune populaire.
Il n'y en a qu'une.
Voilà.
Au moins là, ça respire, hein, ça vibre, ça chambre. Et j'ai beaucoup aimé cette remarque. À un moment, il y a un juge de ligne qui a voulu truander de 20 mètres. Il y a une remarque qui est venue de la tribune. Hey, « Eh toi, Richard, t'aurais pas pu être géomètre, hein ?» Ça m'a bien fait marrer, ça. Bon, enfin bon. Donc, entre ordinateur et le sport pour de vrai, le choix est fait. C'est pour de vrai. Mais bon, le plus important sur le net ou auprès Margot, c'est que l'EFC a gagné et l'EVB également.
L'EFC, t'as dit, je te dis.
Ah merde ! Oh zut !
Aïe, tu t'y mets aussi.
Ah non, l'EVB a gagné. Donc on va passer au résultat. Donc comme je vous le disais, à Paris, l'EVB a battu le Canet 3-2. Et finalement, les Eugrossiennes auraient pu l'emporter 3-1, puisqu'elle le troisième set, elle le perd de 29-27, malgré deux balles de set. 24-22, et ce qui fait qu'en fait en gagnant 3-7-2, elle réalise une super opération, parce que le Canet était quand même 3ème la saison passée. C'est la seule équipe qui depuis 8 ou 9 ans a battu Cannes. C'est quand même incroyable. Mais en fait elle partage les points, hein. Elles n'en prennent que 2 sur la victoire contre 3 en gagnant 3-0-3-1, et elle laisse un point au Canet. Bon, c'est quand même une superbe performance. Alors le AC,
compte tenu de la préparation, on rappellera quelque peu calamiteuse.
C'est ce que dit le coach, mais vous savez, le coach...
Ah, je sais pas ce qu'il a dit, moi, le coach.
Le coach est terrible. Rugbyman, le AC a battu Barbezieux, jusque-là invaincu, 13-0. Mais là encore, quelques petits regrets, hein. Parce qu'il y a quand même 4 ou 5 essais qui sont laissés un peu en route, notamment une dernière passe à l'aile. Alors je mime, hein, pour ceux qui ont la webcam, je mime, et la dernière passe à l'aile, elle va sur l'ailier qui fait un en avant.
Ouais.
Et il n'y a plus personne devant. Puis il y a eu plusieurs mots écroulés à quelques centimètres de la ligne, ça, bon. Et en fait, Évreux passe à côté du bonus offensif.
Ouais, oui, il manque 2 essais quand même.
Avec 2-3 mots là, à quelques centimètres, et l'essai de l'ailier qui aura dû y aller, on y était, hein.
Ah ouais.
Y étiez, cher Brandon.
Sur ce match, si on s'est proposé, où on a eu plus d'occasions de marquer que sur les deux précédents matchs. Donc c'est plutôt déjà le volume qu'on a essayé d'y mettre qui est intéressant. Maintenant, il va falloir soigner la concrétisation, et on n'a pas donné le point de bonus à l'adversaire défensif aussi.
13-0, ouais. Basket, mais je crois qu'il
n'y avait pas des adieux aussi d'un joueur, je me permets.
Le tracteur, ouais.
El Tractor, ouais. Qui nous quitte pour rejoindre Damien Voisin du côté de Peyrorade, et puis y travailler dans une région où ça sera un peu meilleur.
Ouais, on est triste pour lui. Hein. Partir à côté de Pau, vraiment, c'est très dur pour lui. Basket, je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Malgré tout, Évreux a battu Boulogne 84-80 en se faisant quelques frayeurs, parce qu'ils ont mené de 20 points à la 22e. Il y avait 54-34. Quelqu'un y est allé là? Non, personne. Oui, on en parlait tout à l'heure. Football. Alors, je cite Doc Gineco dans la presse folle ce matin. Battu par Rouen, Passy 17e s'enfonce au classement. Les Passéens sont dans le rouge. Les Diables les ont assaisonnés de 4 à Médille. On est triste pour eux.
Sans commentaire.
Coupe de France, bah là, Dave en parlera s'il a envie, hein, parce qu'on va pas quand même pas parler de l'EFC contre Coutainville ou je sais quoi, pas quoi.
Côte-Bec. Côte-Bec pour les Elbeuf, je crois.
Handball. Handball. C'est de l'allemand.
Ah, ils ont gagné.
Ouais, le SMV s'est repris, s'est imposé à Angers 32-26, pardon. Soit un plus 6 qui succède à un moins 12. Donc un championnat qui a l'air bien peu homogène pour le moment. Le SMV après 4 journées est 8e. Athlétisme, il y avait les Bruyciennes ce week-end, hein, ce dimanche. Donc après les plombiers polonais, voici les coureurs ukrainiens qui arrivent. Alors, je prends mon temps. Matvichuk a bouclé les 10 km en 31 minutes et 36 secondes.
C'est pas mal.
Ce qui est quand même pas mal. Ah, donc ouais. Il colle une minute au précédent record, hein, qui était de 32 des brouettes. Donc lui, voilà. Et sa collègue, parce qu'ils font les courses à deux, le câlin le soir, la course le lendemain, sa collègue Karmanenko, première féminine, en 37 minutes et 15 secondes. Bon. Constat, sinon je crois qu'il y a une fréquentation en baisse.
Tout à fait.
Ils vont tous au foulée nocturne, c'est pour ça.
Non, c'est pas pour ça, c'est qu'il n'y a pas de communication faite et digne de ce nom maintenant. C'est pas en posant des affiches deux semaines avant que tu peux réussir à drainer beaucoup de monde. Avant, il y avait 3 ou 4 mois de com intensive et voilà, les éléments sont longs à arriver et longs à distribuer. Donc évidemment, pour mémoire, le magazine de la communauté d'Aglo arrivait lundi dans les boîtes aux lettres avec une demi-page sur les Bruyciennes. C'est joli, c'est pas mal. Mais bon.
Non coupable.
À mon entendeur, salut.
Sinon, j'ai pas fait attention à ce qu'avait fait Saint-Cé en handball, mais tu sais.
Ils ont gagné également.
Bon.
Bah ouais. Je ne sais plus le score, mais ils ont gagné à Saint-Valery-en-Caux, je crois.
Bah, de quoi avoir la banane, non?
Ouais, tout à fait, la banane, c'est peut-être le prochain titre. Je vois que tu dois faire allusion à ce très beau clip où on le voit.
Ce quoi?
À ce très beau clip.
Ah, pardon. On y va.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Jamais au supermarché, plutôt crever. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez, plutôt crever. Non mais laissez-moi manger ma banane, non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi plutôt crever que de pas finir ma banane.
Et ben pour les gens qui sont peut-être au dessert, une petite banane c'est plutôt pas mal. Et puis à côté de ça, bah Bernardo nous a lâchement abandonné aujourd'hui, on en était à la lettre E. Donc on vous propose une petite immersion au nouveau centre équestre d'Evreux là, le centre le Hara de Valem. Voilà, on a été rencontrer les propriétaires et puis parler un peu d'équitation et évidemment on aura la réponse tant attendue, qui fait vraiment du sport, le cheval ou le cavalier. Donc on vous laisse découvrir cette réponse et puis on se retrouve après en musique. Franck, c'est ça, si je me trompe pas, on est dans le Hara de Valem pour parler un peu de ce nouveau lieu dans Évreux. Ça va faire combien de temps que le Hara est ouvert maintenant ?
Alors bonjour, on est ouvert depuis maintenant le 12 juillet 2010, donc ça va faire bientôt 3 mois, d'ici une dizaine de jours.
Et c'est un projet qui trottait dans la tête depuis longtemps, ou trotter c'est bien le mot je pense.
Oui, c'est un projet qu'on a depuis maintenant 4 ans, qui a commencé en 2006, et où l'achèvement se fait à présent mi-2010, à partir du 12 juillet 2010, ça faisait 4 ans qu'on était parti dans les démarches administratives, etc.
Alors le Hara, c'est je suppose plein d'actions ou plein d'activités proposées, c'est pas où on va faire le tour, mais voilà, il y a peut-être une école, il y a peut-être tout ça, on va faire le point avec vous, des activités proposées pour ce qui est un peu nouveau pour les gens, un Hara dans Évreux sans avoir la voiture à prendre et bouger à quelques kilomètres à la ronde dans des lieux qui sont plutôt nombreux autour.
Alors oui, on propose diverses activités. Déjà, on est à la base une école d'équitation, donc qui fait de l'initiation pure pour des jeunes ou des adultes qui n'ont vraiment jamais eu aucune connaissance, qui n'ont jamais monté à la compétition. Beaucoup de créneaux horaires qui permettent d'accueillir vraiment des gens qui sont débutants à ceux qui veulent faire de la compétition et qui pratiquent la compétition. Et à la suite de ça, on a aussi une écurie de propriétaires, donc les gens qui sont propriétaires de chevaux et qui eux font soit du loisir soit aussi de la compétition. Donc on a une équipe de compétition de jeunes qui participent aux championnats de France, etc. Au travers de ça, on propose aussi des activités d'équithérapie, donc ça pour les handicapés. On reçoit aussi tout ce qui est école, tout ce qui est les foyers de jeunes, réinsertion sociale, toutes ces choses-là.
Alors je suppose que on va parler justement un peu peut-être de la réinsertion et de ce que vous pouvez faire. C'est quoi ? C'est leur donner un échange, un contact avec quelqu'un d'autre qu'un humain et peut-être leur donner l'occasion de s'occuper de quelqu'un, ou en l'occurrence un cheval. C'est quoi les objectifs sur cet aspect-là ?
Alors oui, là, pour ces jeunes-là, en l'occurrence, c'est vraiment les familiariser, comme c'est des jeunes qui sont en général, qui sont très obtus dans leurs idées et qui ont aucun contact avec l'être humain, entre guillemets. Donc ça leur permet justement d'avoir un contact avec un animal, de pouvoir évoluer un sens et une passion et d'oublier un peu toutes les mauvaises ondes qui puissent exister avec l'être humain, quoi, tout simplement.
Ok, évacuer les tracas de la vie quotidienne, en quelque sorte, au travers du contact avec le cheval. Oui, du Valem, ça propose, on l'a vu, une partie initiation. Comment ça se passe et qui est-ce qui l'anime, cette partie initiation ?
Alors, on est... Le Hara de Valem regroupe 3 personnes, donc on est 3. On a Laura, Elodie et moi-même. Donc... Elodie et Laura s'occupent beaucoup de la formation, de l'initiation à partir de 3 ans. Donc c'est la prise de contact vraiment avec l'animal de façon à ce qu'on puisse rassurer les enfants, etc., etc. Donc ça c'est les filles, c'est Laura et Elodie qui s'occupent de toute cette partie initiation, perfectionnement. Et moi je vais être plus orienté vers les enfants qui veulent faire de la compétition et commencer à faire du concours hippique.
Alors c'est évidemment la question piège, mais est-ce que c'est vraiment un sport ? C'est pas le cheval qui fait de la compétition et le cavalier qui c'est plutôt tranquille, ou ça dépend un peu des disciplines hippiques proposées et pratiquées ?
Alors forcément, c'est la question piège, comme vous dites. L'équitation est un sport, bien évidemment. C'est juste un sport d'équipe, Donc au travers de tout ça, il y a un animal à gérer, il y a une carrière sportive à gérer, hormis sa carrière personnelle, il y a aussi le cheval à gérer, il y a des soins, il y a toute une partie vétérinaire, enfin c'est un athlète, donc faut s'en occuper de A à Z, il y a toute une gestion sportive à faire. À côté de ça, forcément, il y a des épreuves qui sont plus physiques, je dirais, si on peut appeler ça physique. Au niveau de l'équitation, il y a le dressage, il y a du cross, de l'obstacle, il y a la course, il y a l'attelage, il y a toutes ces disciplines, et bon, j'en passe. Forcément, je dirais que le saut d'obstacle, c'est un sport qui est assez éprouvant sur une courte durée, mais qui demande aussi beaucoup de capacité au niveau intellectuel, au niveau sang-froid. Ça demande beaucoup de dextérité, tout simplement. Le dressage qui va être peut-être un peu moins physique, mais qui va demander beaucoup plus de précision et de tact.
Alors on pourrait comparer ça entre le saut d'obstacle, peut-être plus un coureur de 100 mètres, un truc plutôt court, où il y a quand même une stratégie sur les courses, et puis peut-être le dressage, un tireur à l'arc éventuellement, quelque chose comme ça, où c'est vrai que les qualités physiques sont un peu moindres, et c'est peut-être pour. Mais par contre, la concentration prédomine dans ce sport.
Oui, voilà. Donc c'est vrai que de toute façon, quelle que soit la discipline, ça demande énormément de concentration, et c'est vraiment c'est un couple, donc faut une osmose parfaite entre l'animal et le cavalier. Il faut vraiment que le couple s'entende à la perfection pour réaliser des prouesses, forcément. Et de toute façon, oui, au niveau physique, ça reste un sport, de toute façon.
Mais voilà, est-ce qu'on peut dire quand même que le cheval nécessite souvent plus de préparation physique? Voilà, je pense que c'est géré comme un homme, un athlète de haut niveau, à savoir, il va avoir des séances de vitesse, des séances de foncier, des sorties en nature, par exemple, et puis les soins qui font partie prenante de l'hygiène de vie d'un sportif de haut niveau. Comme le cheval.
Oui, le cheval, forcément, il va demander beaucoup d'attention, il va demander une préparation journalière 365 jours par an, il va falloir s'occuper de son moral, il va falloir s'occuper de sa partie physique, où effectivement il va falloir faire du foncier, il va falloir aussi intégrer là-dedans une partie technique, donc il va falloir travailler sur certains jours la partie technique, notamment à l'obstacle. C'est un cheval d'obstacle, ça saute pas tous les jours, ça saute une à deux fois par semaine grand maximum. Le reste du temps, c'est de l'entretien physique, c'est aussi le soigner moralement, parce que c'est important, c'est quand même pas très naturel ce qu'on leur demande. Donc il va falloir aussi avoir des temps de repos, des choses agréables pour eux et des bons moments aussi pour eux.
Ok, justement, en parlant de saut d'obstacles et tout ça, je crois que donc c'est dimanche 10,
oui.
Y a une compétition au Haras de Valem. C'est une compétition de quoi? De saut d'obstacles peut-être? Et de quelle heure à quelle heure? Et comment on peut venir assister à ça et puis ainsi visiter ce lieu qui est, on le rappelle, rue de Valem, donc c'est d'où le nom. C'est la rue qui mène au golf d'Evreux, pour les gens qui connaissent plus.
En passant par les jardins ouvriers, oui.
Voilà, avec une super vue sur les coteaux de Saint-Michel et la Côte Blanche. Voilà, si vous voulez vous promener, en venant par la Voie Verte aussi, vous pouvez y accéder. C'est l'occasion, peut-être, rêver de découvrir ce lieu insolite et nouveau dans Evreux.
Oui, alors donc dimanche 10 octobre, on organise un concours hippique interne, je dirais, au Haras de Valem, c'est-à-dire qu'on met un peu en compétition tous nos élèves qui ont attaqué la saison à partir du 1er septembre, qui a commencé tout ce qui est enseignement, tout ça. Donc ils auront une dizaine de cours à leur actif, et ça permet un peu à tous ces élèves de se mesurer sur le thème ludique, toujours, puisque ça reste un concours interne et c'est bon enfant, mais ça permet aussi aux enfants de leur donner goût à la compétition et de leur donner aussi des objectifs d'évolution, quoi.
D'accord, ouais, donc, parce qu'on parle d'évolution, comme dans tous les sports.
C'est donner un peu d'attrait, parce que bon, on aime ou on n'aime pas la compétition, on permet à ces jeunes de pouvoir mettre un pied dedans, et justement, donc on organise une journée où il y aura quatre épreuves toute la journée, il y aura quatre épreuves dans la journée, avec un repas le midi, et donc sur différents niveaux, selon les enfants, tout ça.
Eh ben ok, bah on espère qu'il y aura beaucoup de monde dans cette journée du 10 et puis bah on manquera pas de venir vous revoir dans l'année. Et puis surtout n'hésitez pas à contacter le Café des Sports à l'occasion pour qu'on parle d'équitation sur Évreux et ce qui s'y passe.
Ok, bah merci beaucoup, à bientôt.
Allez, au revoir. Et voilà, c'était Monsieur Douville au Rad Valam. Vu qu'on parlait d'équipe.
Valem,
oui. Du nom de la rue, comme on l'a dit dans le reportage. On va enchaîner avec un morceau.
Oui, c'est dommage qu'ils soient parvenus sur la fameuse légende de comment on trouve le nom d'un canasson, comme on dit dans le milieu. Parce que c'est quand même assez emblématique les noms qu'on peut donner à ces quatre pattes. Moi, ça m'a toujours épaté. C'est dommage que voilà.
Et en parlant de canasson, on va parler en anglais. On va retrouver Ginzu avec le titre Horse, justement. Voilà, c'était Ginzu avec le titre Horses. On va parler rugby rapidement avec les résultats de la semaine passée. Surtout parler des rencontres à venir avec le début de la Heineken Cup. Ah pardon, on n'a pas le droit. Guinness Premier League et...
H-Cup, non ?
Ouais, H-Cup ouais, en France, on doit dire. C'est pas, pardon, excusez-moi, messieurs. Pour en revenir au calendrier, donc Toulon a gagné à la maison contre Castres 22-15. Point de bonus défensif pour le Castres Olympique. Large victoire de Paris, Stade Français contre Montpellier 30-13. Aïe, Montpellier, la machine s'est enrayée. Gonzalo, vous avez peut-être vu le match.
J'ai vu surtout la première période complètement ratée des Montpellierains qui, je crois, ont une attaque en 40 minutes.
Donc manger en conquête.
Ouais, complètement. Non, absent, pas d'envie, rien. Un peu, endormi. Je sais pas ce qui leur est arrivé.
Bon,
Je pense que aussi toute l'histoire autour de Galtier, le retour, les pleurnicheries. J'ai pleuré, je vais voir Gazzini, je suis très triste, etc. Je pense que ça a dû endormir un peu. le groupe.
Ok, ouais, pourtant Béchu, il aurait pu leur gueuler dessus, il sait faire. Perpignan, La Rochelle, 21-16, points de bonus défensif pour La Rochelle à Perpignan. Mais ce qui est encore plus à souligner, c'est qu'ils étaient menés 21-3 à la mi-temps.
Ouais, et Marty, l'ami Marty, lorsqu'on lui dit « Oh, c'est pas dommage d'avoir laissé un point de bonus à La Rochelle », Marty de dire « Ouais, mais surtout ce coup-là, on s'en sort bien, on ne méritait pas de gagner ».
Voilà, donc encore un bon point de prix par La Rochelle en déplacement. Bourgoin, Aillé, ils ont décoincé le compteur contre le CA Brive, 18-3. Voilà, donc c'est plutôt bien, ça relance le fond du classement. Clermont qui gagne avec le bonus offensif contre Agen qui dégringole, pas de fond de jeu, pas de conquête. C'est inquiétant, voilà. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir d'ores et déjà. Pont-Aven, un mot à signaler, bonjour.
À froid comme ça?
À froid.
Pas rien vu en rugby, rien du tout.
Rien, bon ouais, pourtant t'étais pas occupé ce week-end.
Non, non, puis je suis pas passé à côté de Charletti, j'ai pas vu des drapeaux roses partout.
Toulouse qui l'emporte contre le Racing Métro 28-23. Gonzalo, je crois que tu as vu le match,
oui.
Sur ton canapé qui a réintégré sa salle d'origine.
Ouais, c'est une émission assez gonzo, on se raconte ici. une victoire logique. Hein. Toulouse était plus en place. Donc c'était logique que devant, ils ont bien maîtrisé parce que le pack Racing Man est plutôt costaud cette saison et ils ont vraiment bien maîtrisé devant au stade toulousain. Ouais. C'était logique.
Et bon, bah donc quand même un point de bonus pris en déplacement pour le Racing, donc ça c'est quand même bien pour eux. Du coup, ils s'installent, c'est le point qui fait la différence pour qu'ils soient premiers en tête du
classement. T'as pas ton sifflet là ? T'as pas ton sifflet parce que ça cause.
Ouais, il cause dans mon dos là, c'est pas bien ça. Et le dernier résultat, c'est le. Comment dire ? C'est là le choc de cette journée. Biarritz, qui a été gagné à Bayonne, 19-22. Victoire des Biarrots en terre bayonnaise au stade Jean Daugé, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps dans un derby, ou quand on dit derby, il y a 7 km entre les deux, donc ça prend tout son sens.
Non, c'est fini, ils sont paix et amour maintenant. Salah Gotti et Blanco étaient côte à côte en tribune.
Et Pocota fait l'amour à Geronimo. C'est les mascottes
c'est
du
Carlos Anfield, c'est ça.
Et donc au final, ils se retrouvent tous les deux ex aequo, 8e et 9e avec 23 points. Tout comme le Stade français, c'est assez serré en 5 points, donc une victoire bonifiée. Il y a 9 équipes. Donc voilà.
Ça va très vite hein, quand même, parce qu'il y a 2-3 semaines, en haut étaient Bayonne et Brive. Et là, c'est la dégringolade hein, quand même pour Brive.
Surtout pour Brive,
qui a fait vraiment un sale match à Bourgoin.
C'est une question de calendrier aussi.
Aussi.
Quand tu chopes les 4 grosses équipes européennes à l'affilée, c'est un peu dur. Je crois que c'est ce qui va arriver à Toulon bientôt, non? Là, ils ont joué les 4 du bas de tableau. Ils vont peut-être moins rigoler plus tard.
Je pense.
Surtout si Johnny s'enrhume.
Là, il y a 15 jours, on va dire 15 jours de relâche pour le top 14. On va enchaîner avec la Heineken Cup rapidement.
Et sur le top 14, il n'y avait pas une belle soirée hier avec la nuit du rugby, avec les trophées individuels, etc.
Oui, tout à fait. Il y avait ça. J'ai pas trop suivi. Je sais que.
Morgan Parra, meilleur joueur.
Parra, meilleur joueur, voilà.
Andreu, révélation de la saison. Et puis le staff clermontois récompensé collectivement.
D'accord, le staff clermontois. C'était la dernière inconnue.
T'as pas été invité en tant que BE2 ?
Non.
L'Académie des premières lignes n'est pas bien vue là-bas.
Ouais, voilà. Alors, juste pour par rapport à la Heineken Cup qui commence ce week-end.
Elle est finie la Heineken Cup. Bougila l'a dit, on va la gagner.
Ouais.
À Toulouse.
Il a dit pareil pour le top 14 l'année dernière. Vous donnez rapidement les poules. Poule 1, Cardiff Blues, Castres Olympique, Édimbourg et les Northampton. En poule 2, on retrouve l'AS Montferrand, le Leinster, le Racing Métro 92 et les Saracens.
Ah, ils ont quand même jamais de bol, clairement. Ils se retrouvent toujours dans des poules de la mort.
De la mort. Voilà, poule 3, on retrouve les London Irish, le Munster, les Ospreys, c'est des Gallois, et Toulon. Donc pareil, ils vont s'amuser parce qu'ils doivent Toulon pour gagner, ils doivent sortir le Munster, c'est jamais facile chez eux, et les Ospreys. Poule 4, on retrouve Aironi Rugby, donc ça c'est les Italiens, Bass, Biarritz et l'Ulster. Pour le BO, ça doit être jouable. Poule 5, on retrouve les Benetton Trévise, les Tigres du Leicester, Perpignan et les Scarlets. C'est aussi des Irlandais. Et poule 6...
Scarlets, ce sont des Irlandais ?
des Gallois. Et on retrouve Pool 6, les Glasgow Warriors, les London Wasps, les Grand Dragons et Toulouse. Les Grand, c'est Newport.
Et d'ailleurs, il y a eu un premier goût de H-Cup ce week-end, puisque les matchs du top 14 ont été arbitrés par des arbitres anglo-saxons pour la plupart, et puis un italien aussi, je crois.
Ouais, et ça s'est plutôt bien passé. Les joueurs et les arbitres se sont plutôt bien trouvés, et apparemment, les échos étaient plutôt positifs. L'expérience va être renouvelée, je crois, dans un mois, d'ici un mois.
Eux qui sont contents de faire du tourisme, ils emmènent madame sur la côte basque et tout.
C'est super. L'arbitre qui était sur Bayonne-Biarritz était très content de découvrir un match dans ce contexte, et d'ailleurs, pour finir, pour clore la page rugby, il est originaire de la province du Munster et il fait moi qui connais ce que c'est les derbys Munster contre le Leinster, j'ai retrouvé un peu cette ambiance. On m'avait prévenu du contexte. Et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Il était plutôt content de sa sortie et de ce qu'il a vécu en termes d'ambiance et de prestations.
Il veut importer Potioka en Irlande.
D'accord, mais on verra. Il était surpris de cet Indien qui se baladait en centre-ville et faisait des bisous à toutes les filles. Globalement, c'est le résumé qu'il a fait.
T'étais descendu au Pays Basque ?
Non, mais c'est le résumé que j'ai pu en lire. On va fermer cette page rugby en musique. Vu qu'on parlait d'Irlande et de Pays de Galles, on va passer un titre de Scott Byram, et c'est Whiskey. C'était Scott Byram et le titre Whiskey. Bonjour à nos... Voilà, ça a changé de personne dans le Café des Sports. Ça rentre, ça sort. Rebonjour Pontavenne de manière plus officielle que sur la page rugby.
Ça y est, enfin le tapis rouge, il était temps.
Et puis, ils sont arrivés. On les avait annoncés vers 13h. Ils sont à l'heure, c'est bien. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Les habitués du Café des Sports, parce qu'ils sont déjà venus deux fois. Et bonjour Ludovic.
Bonjour.
On va se retrouver après le billet d'humeur de Monsieur Pontavenne.
Deux Pontavenne. S'il te plaît.
Raoul, de son prénom.
C'est tout honneur. Le billet d'humeur, c'est les pros et les antis. Pas les pros et les nantis, les pros et les antis. On n'arrête pas d'opposer sport de masse, sport de haut niveau à travers vos rubriques, à travers les critères d'attribution de subventions, etc., etc. Je pense que faudrait arrêter un petit peu avec ces conneries, tout simplement parce que les pros finalement sont des puritains régulièrement offusqués, donc finalement ce sont des anti quelque chose eux aussi. Et pourquoi dénigrer ? Pourquoi dénigrer le sport de haut niveau ? C'est vrai, pourquoi taper sur des footballeurs analphabètes et au QI de poulet qui gagnent des millions en sachant à peine taper dans un ballon ?
Je pense que Ludovic pourra te parler tout à l'heure, je crois qu'il y a son frère qui joue à Lens, c'est ça ?
Oui, mais il est loin, là. Il est loin. Il est à l'autre bout de la table, le frère.
Je l'ai vu à la télé d'ailleurs samedi soir, ça va pas fort. Hein. Ils sont quand même, il y a deux joueurs de Lens qui se sont envoyés des tarpés en pleine tronche. Hein.
Voilà.
Il en faisait pas partie.
Non.
Mais ça, là encore, pourquoi opposer le haut niveau et la masse ? On le retrouve en équipe de France, on le retrouve gentiment au RC Lens, dans leur camp retranché magnifique pour s'entraîner, mais on le retrouve aussi tous les week-ends dans les matchs de quartier. Pourquoi dénigrer le sport de haut niveau qui est censé opposer les peuples dans des combats nationalistes, alors que la belle messe du football au petit niveau nous propose des matchs entre, je sais pas moi, les Azerbaïdjanais de Vernon contre les Turkmènes d'Evreux qui s'opposent aux Congolais de Louviers. On n'est pas du tout dans le mélange sportif sain et transparent et surtout dans les repères d'amitié à travers le sport. Pourquoi pas une équipe des Lilliputiens d'Evreux en basket contre les géants mongols de Turkménistan. Voilà, donc on arrête d'opposer tout ça. Les deux sont nécessaires, l'un aspire l'autre. S'il n'y avait pas de Benoît Taufin, s'il n'y avait pas de Philippe Da Silva ou de Ludovic Schell au basket, est-ce que les petits prendraient leur ballon pour aller jouer sur les playgrounds ? Pas sûr.
Il y aurait la télé.
Il y aurait la télé.
Il n'y regarderait que la télé américaine.
Et voilà, et il n'y aurait pas de sport non plus nécessairement s'il n'y avait pas d'ouverture sur le haut niveau. Et d'un autre côté, ces petits jeunes gens qui sont à côté de nous, ils ont tapé la balle au départ sans avoir d'aspiration particulière. Ils étaient eux aussi des représentants de la masse à ce moment-là. Donc on arrête les oppositions de style débile. On laisse les gens pratiquer leur sport au meilleur niveau qu'ils soient.
Et ben,
il est chiant, il fait des chroniques sans papier.
Ouais, voilà. Moi, je me fous 2 ans de travail en l'air.
Benoît a un long bras pour mettre des antisèches, c'est nickel, regarde.
Et ben, on enchaîne en musique et puis on se retrouve après pour parler plus largement d'un des sports de haut niveau d'Evreux et plus particulièrement du basket. Allez.
Un morceau catholique, Jésus, à Marie Chen.
Bravo.
Bah, c'était quoi ce petit titre, monsieur Gonzalo ?
Jesus and Mary Chain, Teenage Lust.
Ok, bon, parfait. Ça roule.
Ça va, j'ai bon.
Ouais, c'est ça. Tu t'es pas trompé pour une fois, t'as bien relancé le morceau que tu voulais mettre. Eh ben, messieurs de l'ALM, tout d'abord, félicitations pour votre récente victoire de samedi soir, qui est intervenue dans un contexte un peu particulier. Voilà, à savoir deux joueurs blessés juste avant, pas de numéro 5. Benoît, peut-être tu vas nous rappeler. Pour les gens qui sont un peu moins basket, c'est quoi le poste de numéro 5, vu que tu le connais un peu plus que les autres, tu les connais, mais bon, c'est le tien en l'occurrence.
Le poste 5, c'est un petit peu... c'est celui qui est le plus proche du panier. Bon, si vous voyez la raquette, c'est celui qui est souvent qui traîne en dessous du panier, en fait, qui ramasse, qui essaie de ramasser tous les rebonds, qui vient aussi en défense... qui vient aussi en défense. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qui essaye de ramasser leur bon sac.
Non, c'est les peintres de la ville, ils t'ont bien marqué où il fallait que tu sois dans la raquette. Voilà. Hein, ils ont fait une belle croix à l'intérieur de la raquette, comme ça tu sais bien où te poser.
Là encore, il n'y a pas besoin d'avoir le bachot pour savoir où tu joues. Donc.
Voilà, c'est ça. Et donc, avec mes repères, en fait, je sais que je gravite autour du cercle. Et puis, défensivement, en fait, on est là aussi surtout pour aider dans les rotations, les ailiers. Les ailiers qui auraient des difficultés sur les 1 contre 1, voilà, pour attraper quelques erreurs défensives. Voilà.
Donc, ouais, on parlait donc des blessés à ce poste-là, et ben, où on va continuer avec toi, et puis après, on parlera plus du match, de ce qui s'est passé. C'est quoi les nouvelles par rapport à toi, où tu en es, vu que vous avez peut-être suivi l'histoire, tu t'es blessé à l'entraînement, et donc là, c'est quoi les dernières news?
Là, en fait, ça va mieux. Bon, il me reste quand même 5 semaines d'arrêt encore. Je vais sans doute aller en rééducation dans un centre dans le sud de la France pour 3 semaines, en fait, juste avant de reprendre. Bye bye, ouais. voilà, donc je vais. Je pense que je serai prêt. Je serai prêt début novembre, sans doute. Je vais reprendre l'entraînement avec l'équipe début novembre, vers le 9, 8-9, comme ça.
Ok, et eh ben capitaine, parce que c'est nouveau pour cette saison. Vous voyez souvent haranguer les joueurs l'an passé, mais c'était James qui est parti en Finlande qui avait le capitanat et le brassard. Tu te retrouves avec ça. Ça fait quoi de commencer sur une victoire après une préparation, on va dire un peu comme les EVBistes difficiles, on va dire la préparation.
Non, je pense que on a passé une semaine vraiment très compliquée et. Et on a été vraiment très solidaires. On a montré une image qu'on avait déjà montrée la semaine précédente contre Rouen, où malheureusement un joueur était sorti pour rupture du tendon d'Achille. Ben, la veille, s'était blessé aussi, donc on avait joué diminué. Cette semaine, on a intégré des nouveaux joueurs. En une semaine, en plus, ils ne jouent pas forcément à leur poste. Et il fallait vraiment montrer cette envie-là de vouloir faire les efforts tous ensemble. Donc c'est un peu le message que j'ai essayé de passer en début de rencontre et tout le monde a suivi, donc ça peut être bénéfique pour nous, quoi.
Eh ben, c'est plutôt bien. Ludovic, toi qui rejoins le groupe là, l'image que tu avais du club d'Evreux, est-ce qu'elle ressemble à ça? Je connais pas ton parcours par cœur, t'arrives de Nantes, c'est ça?
Tout à fait.
T'en avais peut-être parlé avec
Régis,
ouais, du club et de comment ça fonctionnait. Est-ce que ça correspond à tes attentes ou à l'image que tu t'en faisais, toi, du club d'Evreux?
Non, ouais, c'est tout à fait cette image-là, avec un club que je trouve assez famille, avec une bonne ambiance, et je trouve que ça se voit vachement dans l'équipe. Et non, c'est vrai que c'est facile de s'intégrer dans ce club, et vraiment, c'est ce que m'avait dit Régis, donc c'est assez facile, vraiment.
Ok, et eh ben on va.
C'est qui Régis?
Régis Boissier.
Ah, pardon.
Il a joué à Évreux il y a 4 ans, je crois.
3-4 ans, ouais. Ouais. Allez, fait.
Non.
C'est pas lui qui venait régulièrement au rugby?
Ouais,
si, hein, c'est ça. J'étais plus pas là à l'époque, mais.
Ouais, c'est autre chose que Da Silva, on le voit pas le dimanche après-midi. Mais...
Ouais, il fait pas assez chaud. Allez, plus
j'ai
sérieusement,
commencé à y aller.
T'as le droit de répondre aux provocations bêtes et méchantes.
Tu choisiras ta tribune, tu vas dans celle que tu veux. T'as le droit d'écouter une musique pourrie pendant une heure et demie. Tu vas voir, c'est sympa.
C'est sympa. Allez, on va parler un peu de la saison et puis du groupe qu'a constitué Rémi cette année. Je vais repartir avec toi, Ludo. Il reste quatre joueurs de la saison passée. Est-ce que tu peux nous les présenter rapidement? Et puis bah, Philippe et Ben présenteront les nouveaux.
Ok, bah, Philippe, je pense que tout le monde le connaît déjà. Moi, j'apprécie de jouer avec ce genre de meneur. C'est le genre de meneur qui fait des passes, qui met ses coéquipiers à l'aise. Et non, c'est un très bon joueur. C'est quelqu'un de bien aussi. Bah, comme les trois autres d'ailleurs.
T'es pas obligé de le dire parce qu'il est là.
Non, mais vraiment, moi, je le pense vraiment. Je trouve que si l'équipe est saine en ce moment et si tout va bien, c'est parce qu'il y a un noyau de quatre joueurs et de quatre hommes bien. Et c'est pour ça qu'en fait l'équipe tourne bien et que l'ambiance est bien au jour d'aujourd'hui. Après, on a Benoît qui est malheureusement blessé, mais qui est un peu comme Philippe, des joueurs intelligents. Et parce qu'on a oublié de le dire dans la présentation des pivots, normalement les pivots ne sont pas des lumières quand même, pour le préciser.
Enfin, on adorait qu'il y en ait un qui soit honnête.
C'est vrai,
c'est ça, c'est grand tout mou planté au milieu. Hein.
C'est quand même un poste, si on a un bûcheron, un bourrin, c'est quand même le poste où on va finir.
Plus on est grand, et plus le sang a du mal à monter au cerveau. Voilà.
C'est ce que je pense.
Pour irriguer tout ça, ouais.
Non, mais on va dire que Benoît, c'est l'exception. C'est un joueur intelligent qui a de bonnes mains et.
Ça fera plaisir à Maury.
Non, mais Maury aussi, c'est un joueur intelligent. Non, mais sincèrement, dans cette équipe, ça va. Les joueurs sont intelligents. À croire qu'on s'est regroupé sur.
Il écoute RTL 2 depuis tout à l'heure. Il se dit putain, il passe pas la radio. Ils sont où, les gars là?
C'est pas sympa de pas lui avoir donné la bonne fréquence.
Non, mais. Donc voilà, après, Maury, lui, c'est un joueur plus athlétique, plus défensif. Et pareil, quelqu'un de bien.
Comment vraiment, ça, plus
c'est...
athlétique.
Non, mais temporairement, Benoît, pendant que t'es sur une
voilà. Voilà. Bah oui.
Pendant 6 semaines, dis-moi.
Et le dernier, bah, Karim, moi, je suis surpris, je le connaissais pas trop parce que les fois où j'ai joué contre Évreux, je me suis blessé, donc j'ai pas eu le temps de trop voir les joueurs. Mais je suis agréablement surpris par Karim. Je trouve que c'est un bon joueur et je pense un très bon joueur à en devenir.
Ok, bah Philippe, tu vas peut-être, je sais pas, ouais, Philippe, tu vas nous présenter une partie des nouveaux et puis Ben finira. On verra s'il a bien écouté comme ça ses deux compères.
Bon, mais je vais commencer par Drake Reed, un intérieur qui vient pour remplacer James. Donc il a pas la tâche facile parce que James a laissé une très grosse image ici, donc il y avait beaucoup d'attentes sur ce poste-là. Mais contrairement à James, il est sur un autre registre. Il est vraiment plus sur le jeu extérieur, alors que James, il pouvait vraiment alterner sur le jeu intérieur et le jeu extérieur. Et il ramène toujours une activité sur le terrain, que ce soit en défense ou en attaque, vraiment très intéressante.
Pour compléter, je le trouve plus mobile tout simplement que James.
Ah oui, non, mais il ramène ce côté vraiment très athlétique. Je te dis, il est toujours en activité, que ce soit en attaque ou en défense. Et donc, c'est pas du tout le même joueur. Et dans son registre à lui, il nous apporte énormément. Ensuite, il y a Kelvin Watson qui a mis 26 points ce week-end avec un très gros pourcentage. Je pense que. C'est peut-être le match où il a réussi vraiment à trouver vraiment où est-ce qu'il pouvait apporter dans l'équipe sans trop forcer, parce que c'est vrai qu'il arrivait avec un gros standing de gros scoreur. Il avait fini l'un des meilleurs scoreurs en Hongrie avec le titre de MVP, donc c'est vrai que c'est pas facile d'intégrer un nouveau championnat et de s'adapter au jeu collectif qui est demandé. Et ce week-end, il a vraiment été très très bon, que ce soit sur les tirs extérieurs ou sur l'agressivité. Il a provoqué énormément de fautes. Donc c'est vraiment un joueur très intéressant. Et après, c'est les trois requins, et ben ils se dépouillent, que ce soit en attaque ou en défense, et ça c'est vraiment rassurant, je vais dire. Après, il y a Devin Davis qui lui il est partout, lui je crois que le public il va vite fait tomber amoureux de ce joueur là parce qu'il se bat, il se jette au sol, il contre malgré sa petite taille, il est toujours bondissant, toujours en activité. Et c'est vrai qu'il va faire le show, je pense, cette année.
Pour compléter, j'étais avec Monsieur Dumora, donc ceux qui suivent le basket depuis quelques années à Évreux savent l'œil qu'il peut avoir. Il me fait, j'ai pas vu un joueur aussi talentueux depuis Bruce Bowen à Évreux. C'est son analyse et son avis au sujet du joueur, donc ça laisse quand même pour.
Moi, j'ai une petite question sur James. Il a pas un peu raté son intersaison, parce que finir en Finlande pour voir le Père Noël, c'est sympa, mais quitter la Pro B française pour la Finlande, c'est.
Mais c'était peut-être son rêve.
Après tout.
Je pense que c'est.
C'est vrai, il a du chou hein, pour l'intérieur.
Je pense que c'est une histoire d'agent, je pense surtout. Parce que je crois qu'entre temps, il a changé d'agent et c'est sûr que, bah, Donc tu laisses passer un marché. Voilà, c'est, je pense que c'est une question d'agent et qui s'est retrouvé en Finlande. Et la preuve, c'est que c'est pas du tout son niveau et il est en train de tout exploser là-bas. Donc il va vite faire son chemin là-bas et peut-être qu'à la trêve, il rebondira quelque part d'autre.
Ouais, c'est un gars qu'on risque de voir revenir dans une ligue plus forte au moment du mercato, entre guillemets.
Très certainement. Très certainement.
Et pour rester sur les intérieurs, comment tu expliques ce choix de Rémi de cibler des intérieurs de petite taille au niveau de ses recrues américaines?
Ben, je pense que le championnat, non, c'est pas une question de financière. Je pense que c'est surtout ce que la Pro B demande. Quand on joue, on compare par exemple le match du week-end dernier, les intérieurs adverses, ils faisaient à peine 2 mètres. Donc effectivement, on n'a pas besoin de grands, de très très grands comme on peut en avoir besoin en Pro A. C'est un jeu qui est beaucoup plus sur la mobilité. Donc effectivement, en ayant des requins au poste 4 ou en poste 5 qui font à peine 2 mètres, c'est ce qui est demandé par rapport au jeu qui est présenté en Pro B, quoi.
C'est le choix de Rémi quand même, parce que je crois qu'il y a quelques équipes de Pro B qui sont allées chercher des grands gibons. Il y a Zaki, je crois, qui est arrivé
sur une équipe de Pro B. Malheureusement blessé, mais
il y a un autre gars dans le Nord, un Ricard.
2m14. Ouais, mais c'est exceptionnel et on va vite s'en rendre compte que ça, à un moment donné, ça va être des points faibles pour leurs équipes. Nous, on a pu le constater, par exemple, au match retour contre le Portel. Au premier match, bon, ça a été une surprise pour nous. On avait perdu de 20 points là-bas. Et au deuxième match à domicile, ben, c'est nous qui leur avons mis 20 points parce que justement on a su exploiter cette faiblesse là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il apporte la taille, mais
il ralentit
le jeu. Alors que la Pro B, c'est un jeu beaucoup plus en mouvement, avec beaucoup de mobilité de la part des intérieurs. Donc c'est vrai que ça peut être bénéfique d'un côté, mais aussi une faiblesse.
Donc toi, tu abondes dans le sens de Rémi, tu partages pas le point de vue du coach adverse de ce week-end qui s'empressait de dire qu'ils allaient signer un joueur de grande taille. Je crois qu'ils sont
sur grande taille, il fait 2m5 quand même. Donc ouais. Bon, c'est comme Ben, ouais, quoi.
Ah, tu veux dire qu'il est intelligent lui aussi?
Non, mais c'est vrai que bon, grande taille, Zaki faisait 2m14, il le remplace par un joueur qui fait quand même qui est un peu plus petit, quoi, il perd 10 cm, donc il va garder cette mobilité-là qu'il a pu avoir contre nous sur le dernier match. Parce qu'avec Zaki, c'est pas la même chose, il présente pas le même jeu.
C'est quand même un autre basket, hein, parce que je regardais les championnats du monde de basket. Les Hugo, aux ailes, ils font 2-5. Hein.
Ah ben, c'est moi qui connais le niveau international, pour y avoir joué, c'est un autre niveau. On peut pas comparer le championnat Pro B et de Pro A, même Pro A.
Maintenant, les physiques sont différents.
Les physiques
qui mesurent 2m5 sont très mobiles maintenant, au niveau international.
On va revenir au basket et en plus en détail. On va juste finir le tour de l'équipe avec Benoît, peut-être plus avec les recrues, on va dire.
J'ai pas du tout suivi là.
Les recrues plus locales, les recrues locales et joueurs du cru qui sont venus pour certains en renfort de dernière minute ou d'autres qui reviennent au club. Ou d'autres, je pense notamment au jeune Aziz Dia qui a été chercher
Rémi, du Val d'Oreuil, qui est originaire de VDR. C'est ça.
Allez,
Aziz, ben on va commencer par lui puisqu'on en parlait. Aziz, qui est un jeune vraiment en devenir, qui a un gros avenir, un gros potentiel de progression, qui est grand, qui est très athlétique, qui manque peut-être encore un peu de poids, mais c'est une éponge en fait.
J'ai des solutions pour si tu veux qu'il prenne du poids.
Ah ouais.
Peux venir en
noir rugby, man, alors, ouais. Okay.
Cassoulet après les entraînements, 4-5 ouais. Bières tous les vendredis soirs, et puis ça devrait le faire.
Et non, très, 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 très intéressant. C'est une vraie éponge. Il écoute tout ce qu'on dit. Il intègre vraiment très, très bien les choses. Et puis il a une grosse motivation. Et puis surtout sur ce qu'il a montré sur.
On croyait que c'était un détail physique.
Oui, je me suis rendu compte en le disant. Surtout quand je vous ai vu rigoler.
Tu sais, on est blanc et tout petit, nous. On est facilement impressionnable.
Non, il a une grosse donc motivation. Et je pense que ce sera un joueur très intéressant. Surtout dans l'année, il progresse vraiment très rapidement. Il a fait de bonnes choses en match amical. Donc ensuite, on a Ludovic Schell, puisqu'il est à côté de moi. Que je connais depuis très longtemps, un gros shooter à 3 points, un joueur qui est très rapide, très vif, énormément dans la lecture de jeu, le type de joueur que j'apprécie justement à l'aile, un peu dans le même style que Philippe, même s'ils sont pas au même poste. Que j'apprends aussi à découvrir, parce que je le connaissais uniquement shooter, et je découvre au fur et à mesure des entraînements qu'il a aussi des qualités physiques. Puisqu'il commence à remettre quelques smashs, quelques dunks. Donc voilà.
C'est
donc,
le bracelet magique, ça.
Ah, c'est peut-être le bracelet magique, ouais. Donc ensuite, il reste, il me semble, Grégory Filet. Voilà. Grégory Filet, qui est un jeune joueur à l'aile, qui se cherche un peu pour l'instant, mais qui progresse et qui se rend compte de ses capacités, de ce qu'il peut apporter à cette équipe en ce moment. Donc voilà, je pense qu'il faut il faut lui laisser le temps de prendre ses marques. Mais c'est pareil, c'est un joueur qui écoute énormément ce qu'on peut lui apporter comme conseil. Donc je pense qu'il devrait éclore dans la saison.
Et puis un dernier mot sur les deux jokers médicaux quand même. En plus, c'est des anciens amicalistes qui reviennent au club rapidement pour des piges. Sambou Traoré et puis Teddy Mézerois. Un petit mot sur eux deux quand même. Même s'ils sont là que de passage pour l'instant.
Non, bah, déjà, ce qu'ils ont fait sur le premier match, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils ne jouent pas du tout à leur position. Teddy, c'est un ailier qui peut dépanner sur le jeu intérieur. Sambou, c'est un catch shooter qui s'écarte un peu du panier, et là malheureusement il a dû jouer 5. Ce sont deux joueurs qui ont déjà connu le club, donc savent parfaitement comment fonctionne Rémi, et ça c'est vraiment très important. Donc l'intégration a été assez facile. En plus de ça, Sambou a déjà joué avec Ludo, moi j'ai déjà joué avec Sambou, Teddy a déjà joué avec Ben, donc c'est vrai que ça a facilité l'intégration de ces deux joueurs. Et après ils ramènent ce qu'on leur demande, c'est qu'ils savent pourquoi ils sont là, et ils ont l'amour du maillot comme a pu l'avoir Teddy, et ça c'est vraiment bénéfique pour l'équipe.
Et ben on clôt cette première page basket, on reviendra après avec l'ami Dave qui est arrivé dans les studios, et puis on retrouvera Damienski pour parler un peu plus de basket et des nouvelles règles et du championnat. Allez, en musique Gonzalo.
Stand alone. another broken love affair. My heart is closed for the season.
Eh ben on est toujours au Café des Sports sur Principe Actif 102.4 FM et on va reparler avec les joueurs de l'ALM Basket. On va reparler de évidemment de la saison et de ce qui va venir. Mais avant ça, Dave est rentré dans les studios. Il va nous parler de foot. Bah, Ludo, on en a parlé vite fait tout à l'heure. On pense que tu suis l'actualité footballistique très largement. Philippe, on ne te pose pas la question, on t'a vu t'enflammer l'an passé pour le Portugal. Quant à Benoît, avec son genou fou et ses deux pieds carrés, on lui pose pas la question, elle est toute trouvée.
Ça m'intéresse pas.
Ouais, voilà, t'as raison, moi non plus, c'est pour ça que je vais laisser le micro à Dave et puis il va... nous parler peut-être du très bon résultat.
Le Café des Sports.
Du très bon résultat d'Arles Avignon.
Ah, je vois que le feuilleton continue toutes les semaines. C'est bon ça. Non, déjà, juste pour commencer, donc, je vais vous parler d'un sport où tous les joueurs font moins d'1m85, 1m80. Donc je pense que c'est un sport vraiment de prix Nobel de la paix, hein, si j'ai bien compris ce qu'on disait depuis tout à l'heure au niveau de la taille. Donc voilà.
Prix Nobel des sciences.
Je sais pas si vous allez tous pouvoir suivre, hein, vu vos tailles respectives, mais on va essayer quand même de faire simple.
Peter Crouch.
Non mais lui c'est un ancien basketteur il me semble.
Ibrahimovic il est là aussi.
Sans que Ibrahimovic non il joue plus au foot, hein, il a arrêté je crois.
De la boxe.
Bah pour rester dans le domaine des blessures, moi je vais vous parler de la blessure qui est arrivée ce week-end à Hatem Ben Arfa. Donc je sais pas si vous avez vu les images du tacle qu'il a subi en première
poussette.
Ligue.
Une petite toussette.
C'est rien, c'est en Angleterre.
Ouais. Ouais. Bah justement c'est vrai que c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en Angleterre justement on voit souvent ce genre de
Il a eu qu'un jaune en plus, je crois.
Il n'y a même pas eu faute. Ouais, donc, a priori, j'ai pas bien compris les règles, mais puisqu'il n'y a pas eu faute ni carton, la commission de discipline va pouvoir s'en saisir pour suspendre le gars. Donc moi,
l'arbitre.
La commission. Ouais. L'arbitre normalement devrait être rétrogradé en division 8, je pense. Et du coup, moi je pense qu'il faudrait peut-être militer justement pour faire comme ça se fait quelques fois, mais pas tout le temps, que le joueur qui a commis l'attentat soit suspendu aussi longtemps que sa victime, que la durée de la blessure de sa victime.
Surtout que De Jong, il a un léger passif, quoi. Il a pété une jambe il n'y a pas si longtemps que ça, je crois.
Hein. Ouais, en finale de la Coupe du Monde.
Et là, il a été exclu de l'équipe nationale d'Hollande aussi.
Ouais, donc tu vois, je pense que c'est le genre de truc qu'il faudrait faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les basketteurs.
Oui.
Ouais, c'est vrai que ce genre de geste, oui. Après, il faut vraiment, vraiment bien étudier, parce que des fois, dans le feu de l'action, on se retrouve dans des situations où on peut pas éviter des fois l'impact, le choc.
Non, bien sûr, mais
j'ai pas vu exactement j'ai vu la fin quand il se roule par terre.
Bah alors là, je sais
mais
pas.
J'ai pas vu le choc en lui-même, donc.
Ceux qui ont vu l'image, alors est-ce que.
Moi, j'ai vu, c'est quand même assez dur, mais surtout De Jong, c'est pas sa première quand même. Hein. Ouais. C'est un joueur.
À aucun moment il va le ramasser ou il va s'inquiéter, voilà. Il se barre et l'action continue.
Ouais,
en plus il lui prend la jambe arrière, le ballon est devant. Bon, déjà il a aucune chance de lui prendre le ballon. Surtout il se barre. Enfin, l'autre il a double fracture péroné tibia et rien à cirer. Hein.
On faisait un couplet sur les intérieurs au basket tout à l'heure, mais des bouchers il y en a dans. Enfin, des bourrins, t'avais dit, pardon.
Il y en a dans tous les sports
et lui c'est son rôle, je crois, hein, de toute façon. Hein.
Bah, il avait découpé Xabi Alonso et en finale de la Coupe du Monde.
C'est vrai. Non, mais toute la Coupe du Monde, il a fait que ça, découper. C'est son fonds de commerce, hein, d'un côté. Donc, mais si on ne le sanctionne pas, il continue.
Mmh. Bah, il est arrivé un petit peu la même chose il y a 15 jours à Passy-sur-Eure, justement avec Dominique Silva, qui est un joueur d'Evreux qu'on connaît bien, je pense, qui s'est fait. Alors qu'il avait lâché le ballon depuis quasiment 2 secondes, il y a un joueur d'Amiens qui est arrivé par derrière, qui l'a découpé. Du coup, le pauvre, il se retrouve avec rupture des ligaments croisés du genou. Alors que c'est quasiment le meilleur joueur de son équipe et qu'il a 34 ans. Donc heureusement qu'il est très 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 bien physiquement. Et donc il m'a annoncé samedi qu'il voulait pas que ça soit ce gars-là, qui est quand même un petit peu réputé aussi pour être un peu un boucher, qui stoppe sa carrière. Donc il a décidé de faire tous les efforts malgré son âge pour revenir et revenir le plus vite possible, d'ailleurs, comme a fait Landreau en 4 mois et demi.
C'est courageux. C'est courageux. 4 mois et demi, c'est un peu court.
Ouais. Bah, c'est
tu connais ce genre de blessure, non?
Ouais, j'ai fait les deux. Ouais. J'ai fait les deux croisés. Donc ouais, c'est 4
combien
mois
de temps
demi,
combien de temps à chaque fois ça.
Bah quand j'avais 23 24 ans, ça a mis 10 mois. Le dernier c'était il y a 4 ans, j'ai mis un an.
T'as pas les mêmes toubib.
Ouais, non si ça va, j'étais opéré par Arman à Paris. donc qui est réputé, qui fait aussi des footballeurs. Donc,
ah, t'as pas fait Benoît à Évreux?
Non, 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 on continue dans la boucherie. Non, 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 c'est
une tranche de tofin, s'il vous plaît.
4 mois et demi, c'est un peu court.
J'espère qu'il l'entend pas.
Non, c'est quoi qui est le plus.
Quand il faut être honnête aussi, il faut pas, faut pas.
Quand on est blessé comme ça, c'est quoi le plus dur? C'est juste après où tu dis putain, j'en ai pour 6 mois, 1 an, ou c'est quand tu dois commencer à remarcher, chaque étape est dure, ou il y a un moment où on a vraiment la tête dans le sac?
Non, c'est tout le temps en fait. C'est un combat de tous les jours. Il faut tous les jours se motiver pour aller chez le kiné. Au départ, pour se lever, au départ, parce que quand on a la jambe dans le. Enfin, pas dans le plâtre, mais dans la telle, avec les béquilles, chaque déplacement est un peu galère. C'est une motivation de tous les jours. Et puis, je pense que lui, c'est bien s'il se fixe comme objectif, justement, de continuer ses carrés, de ne pas arrêter là-dessus. C'est une motivation, je veux dire, qui va l'aider jusqu'au bout. Donc voilà. Non,
Est-ce que tu penses que c'est possible de faire comme a fait le joueur de Lyon, Reveillère, justement, de ne pas se faire opérer et de revenir juste par des traitements médicaux?
Alors c'est discutable, ouais, ça se fait de plus en plus. Après, tout dépend de, ça dépend de plein de paramètres, de l'état du genou, de sa musculature, de ses antécédents, est-ce qu'il a déjà été opéré ou pas. Voilà, mais on dit maintenant qu'en remusclant, bien les cuisses et les ischios, on peut justement compenser le manque du ligament croisé en fait.
Ça semble compliqué quand même à faire ce genre de pari, on peut dire.
Bah le risque c'est de la
pour
arthrose,
le basket en tout cas, ouais, ça semble difficile.
Pour le basket c'est compliqué, ouais. Bon, après
il y a pas mal de skieurs qui procèdent comme ça.
Oui, et tous les sports dans l'axe.
Ouais, ils ont une telle musculature aussi derrière que je veux dire, les ligaments deviennent accessoires pour eux. Mais je pense que ouais, dans les sports co avec des rotations des pivots, franchement ça paraît un peu utopique.
Même on a vu Haruna Dindan il y a 2 ans au RC Lens, il s'est fait les croisés et il s'est pas fait opérer.
Ouais.
Musculature. Après ça part aussi du bagage qu'il avait déjà, je pense.
Il jouait avec ton frère à cette époque-là.
Ouais, ouais. Je pense que même Michael Essien qui a eu beaucoup de problèmes de genoux, c'est des gens qui sont tellement musclés au niveau des cuisses et ça tient. Donc
Bon, pour continuer.
Ça fera des mauvais vieux tout ça quand même. Hein.
Ça c'est sûr.
Oui, c'est sûr que ça va être compliqué à partir de 40-50 ans. Je pense qu'ils vont avoir du mal à marcher.
Il y a de bonnes prothèses maintenant.
Bon, pour enchaîner avec le foot, vu qu'on va quand même profiter de la présence des basketteurs, je vais pas continuer trop longtemps, mais je voulais essayer de vous parler de Ligue 1, mais finalement j'ai cherché où étaient les clubs et j'ai regardé tout le classement. Et au début, j'ai regardé premier, deuxième, troisième, et puis arrivé au bout du septième, huitième, j'en ai pas vu, donc du coup.
Si, Paris. Paris quand même.
Paris, non, bah je te parlais. Non, j'ai cherché
un
gros.
J'ai cherché
un gros club dans les 7 premiers, j'en ai pas trouvé, donc je me suis dit pas de Ligue 1 aujourd'hui. J'ai vu 7ème Paris, donc encore un petit club. Après 8ème Marseille, mais ça faisait trop. Non.
Trop exotique.
Non, il est pas allé, ouais. Apparemment, il y a Philippe qui est pas d'accord.
Non, non.
T'as un Pariso portugais, alors.
Oui, oui. Pure souche.
Ouais. Bon. Non, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette désaffection, de cette de ce mauvais début de saison, on va dire, des gros clubs?
Moi, ça m'étonne pas trop. C'est dur quand on a une grosse cylindrée. Je crois que c'est l'entraîneur de Caen qui disait ça, d'ailleurs. Les petits clubs, tout ce qu'ils espèrent, c'est faire un très bon début. Pour arriver à décembre, janvier avec beaucoup de points. Et à ce moment-là, les grands clubs vont se réveiller. On a vu Lyon l'année dernière, on a vu Bordeaux a chuté à ce moment, mais on a vu Lyon se réveiller en fin de saison. On a vu Lille, pareil. Tous les gros clubs mettent du temps à vraiment à trouver leur marque, à jouer ensemble.
Bah, l'année dernière, pourtant, ils avaient réussi enfin à faire un bon début de saison, tous à peu près ensemble, contrairement aux années précédentes.
On n'est pas dans une année aussi post-Coupe du Monde, hein. Faut gérer.
Non, mais c'est ça, c'est surtout
l'effort de l'été.
La préparation. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs
avant.
Voilà. Il y en a d'autres qui arrivent après. Donc la préparation, elle n'est pas la même. En sachant que ces joueurs-là, il faut qu'ils soient prêts pour plusieurs compétitions qui arrivent, en septembre. Il y a la Champions League, il y a les rendez-vous internationaux. Donc, à nouveau.
Bah, dans les petits clubs, maintenant, il y a quand même beaucoup d'internationaux, hein.
Oui, mais
Petit club, entre guillemets,
ils enchaînent pas les compétitions européennes, donc ça aussi il faut en tenir compte quoi.
Je crois que ce que tu dis est vachement important. Il y a des échéances qui sont placées à d'autres moments dans la saison pour les gros clubs, qui sont très rémunératrices en plus. Donc c'est priorité des clubs.
Bien sûr.
Et puis évoquer la Coupe du Monde, c'est pas anodin. Il y a quand même des joueurs qui sont rentrés détruits de la Coupe du Monde psychologiquement.
Psychologiquement, physiquement
Tu crois que Toulalan et le gardien de Lyon sont revenus en pleine forme mentalement?
Non.
Bah, ils ont l'air d'être bien, non?
Toulalan, il est quand même 2 ou 3 crans en dessous.
Ouais, il va se reprendre.
Je sais pas si c'est toi le spécialiste d'ailleurs.
Non, je pense qu'il va se reprendre, mais connaissant un petit peu le bonhomme, il a quand même l'air assez solide dans sa tête pour que ce genre de mésaventure ne dure pas plus de 3, 4, 5 mois. Quoi. Non, ils ont l'air sceptiques autour du micro.
Ouais,
non,
moi, je suis sceptique. Il fait quand même rédiger les communiqués par son agent.
Ouais, mais il fait moins d'un mètre 80, donc il est très intelligent. Bon, pour finir, un petit mot sur l'équipe de France qui va reprendre la compétition contre la Roumanie et le Luxembourg. Alors, on a joué au pronostic la semaine dernière. Je sais pas si Kevin a.
En fait, la feuille, fait alors, ça donne quoi?
Je me demandais si on pouvait peut-être refaire un petit tour de table pour les deux matchs des Bleus, là, qui apparemment vont vraiment essayer de tout faire pour jouer bien au Stade de France devant leur public.
Alors, concernant les pronostics, le super loser était l'organe vocal qui n'a trouvé aucun bon résultat. Le top champion était Gonzalo qui avait un bon pronostic il a
deux dans le même sens. Ouais.
Voilà, et deux dans le bon sens. Voilà, donc victoire de Gonzalo pour ce premier concours de pronostics au Café des Sports.
Bon, j'espère que tu vas tenir un classement à jour, hein, parce que on va s'en refaire un aujourd'hui. Donc les Bleus contre la Roumanie et le Luxembourg. Alors on va commencer par Ludo.
Moi je les vois bien là sur les derniers matchs, je trouve qu'ils jouent mieux et non, je vois vraiment du mieux. En plus Benzema a rejoué avec le Real et tout, donc non.
Le gars qui est arrivé avec 4 heures de retard à l'entraînement hier, c'est ça?
C'est pas grave.
Bah, il avait fait Il avait quand même bien frotté le terrain en s'échauffant entre la 92e et la 93e minute la veille, donc fallait qu'il se repose. Les scores, Ludo.
2-0 ouais. Au Stade de France et après je verrai un match. Non, ouais, 1-0 après, un petit score.
Mais contre Luxembourg, 1-0.
Ouais, un petit score. Ils vont défendre à 12, ouais. À 12 avec l'entraîneur et tout dans les cages, mais sinon. Non, et puis je sens bien Benzema.
Bon, Benoît, est-ce que t'as...
Moi, je m'y connais pas assez, mais au pif, je vais dire. Le premier, je vais faire comme Ludo, 2-0. Et je vois bien contre le Luxembourg, 2-0 aussi.
Ah, vous êtes vraiment optimiste sur les attaquants de la France contre le Luxembourg. Il y a 10 ans, ils en mettaient 10 ou 15. Et aujourd'hui, 2, oh ouais, bien.
Moi, je vois un match nul à domicile contre la Roumanie.
Ah, il fait original.
Ouais, mais non, je pense que les Roumains, il faut pas les sous-estimer.
Mais non, tu tentes un coup de poker.
Il y a plus de
premier,
équipes. C'est ça.
Non, je crois qu'il y a un Portugais qui a été naturalisé roumain dans l'équipe.
Il y a plus de petites équipes. Au dernier qualif, la Roumanie était dans le groupe de la France, donc je pense qu'un match nul, un partout, et je pense qu'ils vont gagner 3-0 au Luxembourg.
Bon, moi je vais dire 1-0 entre la Roumanie et 3-0 Luxembourg pour continuer la semaine dernière sur les victoires de tous les clubs français.
Et contre le Luxembourg, t'as dit quoi?
3-0.
Alors moi j'ai joué la Roumanie parce qu'en ce moment ça me ferait quand même vachement marrer que les Roumains nous battent avec l'histoire des Roms. Moi ça me ferait marrer. Je voterai un 2-1 pour la Roumanie.
Ils ont été renforcés aussi les Roumains.
Avec but contre son camp d'Hortefeu.
Voilà, Hortefeu contre son camp. Et puis je sais pas, 3-0 contre le pays des banques là. Et toi, de Pont-Aven, t'en es où?
Je sais pas, on joue pas la Hongrie, que je fasse un pronostic sympa aussi, non? 2-1 contre la Roumanie et 3-0 contre le Luxembourg.
Bon, il nous en manque plus qu'un, il arrive.
C'est le patron.
Bon, moi je vais faire dans l'original, je vais mettre un 1-0, une grande belle victoire de l'équipe de France, et je les vois pas capables d'aller gagner au Luxembourg, ils feront un 1 partout. Voilà, les pronostics sont enregistrés. On va enchaîner en musique et puis on se retrouvera pour la dernière tranche du Café des Sports pour peut-être avoir l'organe au micro et puis continuer à parler de basket.
Fraternité, mon
Et bien sur ces paroles pleines d'amour, Gonzalo.
C'était en référence Roumanie, enfin France-Roumanie.
D'accord. Et ben on va continuer à parler de basket. On a fait le tour de l'effectif un peu. Vos pronostics, on va commencer par vos pronostics. Ah bon. Oui. Je sais, la rillette est dans ma bouche. J'ai faim, il est l'heure. J'attends avec impatience les rognons purés qui ne font pas envie à Monsieur Toffin.
Non.
Allez, on va faire les pronostics. Les trois premières places de Pro B cette année, ça change pas la donne. Le premier monte directement. Et puis après, quart de finale, aller-retour, machin. Et le champion de France monte, ou le finaliste, si c'est le même cas que l'an passé. Mmh. Et donc, le podium.
Le podium, voilà, on va être d'accord déjà pour le premier.
Dijon,
non ? Dijon, ouais.
Dijon, ouais. Après, je vois bien Nanterre.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, premier, je dis Rouen. Pas Rouen. Dijon.
Rouen, attention,
ils aiment pas. Alors là, mais ils aiment pas.
Non, Dijon, je les sens. Enfin, ouais, je les sens pas trop, trop. J'étais un peu impressionné, mais je pense que Eric Craven est moins aussi impressionnant qu'avant. Donc, non, je sens pas Dijon.
Mais comment tu peux mettre Rouen en premier alors que vous les avez expliqué?
Ben, on va les taper, mais c'est les autres qui arriveront pas à les battre. Hein.
Donc c'est vous premier.
Donc si c'est ça. Ah, j'ai pas dit ça non plus.
Allez, donc Dijon d'un côté, Rouen de l'autre. Après deuxième.
Bah
Rouen. Je mettrais Nanterre moi.
Nanterre, tu. Ben, pareil Nanterre.
Ouais, Nanterre
Rouen,
aussi ouais. Non Rouen non, je les vois pas.
Donc Dijon après Ludo.
Je vois dans les quatre premiers.
Ouais, Dijon ou Portel ou Nanterre comme Philippe.
Ok, et Philippe, le troisième pour toi ?
Bourg-en-Bresse.
Bourg, ouais, je me disais, tiens, Bourg est absent des pronos pour l'instant.
Bourg, je crois pas trop, non. Je mettrais le Portel ou Rouen, ouais.
D'accord, donc on retombe. Et,
allez, pour faire différent un peu, Boulazac.
Il y a de la provoque là-dedans.
En troisième, il y a de la provoque, ouais.
Il y a toujours le coach à moitié cinglé qui est resté
non,
là-bas,
non,
quoi ?
Non,
il est parti.
Il est parti.
Ils ont pris des joueurs cinglés.
On leur enverra pas l'émission. On va attendre encore 15 jours pour avoir le podcast sur le nouveau site de Principe Actif. Donc on a fait le tour, on connaît à peu près la formule. En préparation avec Damienski, on se posait la question, vous êtes plutôt Euroleague ou NBA?
Ludo. NBA.
Ouais.
Les deux. Les deux, j'aime bien les deux.
Euroleague.
Ah, pour quelle raison on va faire les. On va...
Non, je pense que en NBA, il n'y a que le dernier mode de compétition pour se qualifier pour les playoffs, où là, les équipes jouent un peu plus dur. Et les playoffs, où voilà, il faut défendre, il faut gagner. Parce que durant la saison, c'est un peu le show, donc à l'américaine. En Euroleague, il n'y a pas de match facile. Hein. C'est tous les soirs, tu vas à Ljubljana, tu dois jouer la survie pour te qualifier, pour être. Qualifié dans le top 16, non, il n'y a jamais de petits matchs et de matchs à la légère, pris à la légère.
Toi, Ludovic, pourquoi la NBA ?
Moi, NBA, parce que j'adore voir des joueurs comme LeBron James, des surhumains. Pour moi, c'est ça. J'adore voir ces machines. Pour moi, c'est comme Usain Bolt au 100 mètres. C'est des machines de guerre. C'est Kevin Durant. C'est limite comme si on les avait créés. Et c'est ça que j'adore regarder, moi, de voir ces athlètes capables de changement de direction à 100 à l'heure, dunker sur tout le monde. Et malheureusement, en Euroleague, on le voit pas ça aujourd'hui. Même si les athlètes sont forts, je pense que le jeu est tellement serré qu'on peut pas autant l'apprécier.
Je trouve que l'avènement de Durant, c'est une bonne chose pour le basket, parce que c'est un joueur vraiment élégant. Ça a l'air d'être un joueur assez intelligent, un joueur qui partage le ballon, qui le prend quand il y a besoin. Et puis,
un mec qui pourrait jouer en Euroleague.
Ouais, il a pas le caisson. Ouais.
Non mais c'est vrai.
Ouais,
non, mais
ce qui est rare, d'ailleurs, c'est... il s'est complètement adapté aux
bien
règles
FIBA. Ce qui est rare pour un Américain. Ce qui est rare depuis Michael Jordan, hein. C'est le seul à avoir marqué plus de 24 points, plus de 20 points de moyenne sur une compétition internationale. Donc s'adapter aux règles et c'est surtout.
Parce que je me souviens bien d'un LeBron James en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, il n'avait pas fait
16 points de moyenne, ouais, 16, 14, 15. Non, mais
c'est quand même deux fois moins que ce qu'il marque en NBA.
Non, mais après, un joueur comme LeBron James, c'est pas un joueur comme Kevin Durant qui est quand même axé sur le scoring. Kevin Durant, c'est plus du Kobe Bryant, vachement axé sur le scoring. LeBron James, beaucoup le comparent plus à un Magic Johnson du futur qui est capable de dunker, de faire... Parce que LeBron James, même en NBA, ses stats, ok, il met 20 points, mais à côté, il a 8 points, 9 rebonds. Ils disent que c'est peut-être le seul joueur qui va réussir à battre le record de Elgin Baylor à faire un triple-double en moyenne.
Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'a pas eu les reins assez solides ou la tête assez solide pour garder une franchise à lui et partir dans la franchise d'un
copain ? Moi, je pense qu'il a eu raison. On critique beaucoup les sportifs parce qu'ils cherchent trop d'argent. Pour une fois qu'il y en a un qui dit « Non, non, moi, je prends moins d'argent pour aller dans une équipe qui joue le titre », on le critique aussi. Donc après, il faut savoir...
Ludo, il aurait pu prendre moins d'argent à Cleveland pour recruter autour de lui et faire comme Michael Jordan, emmener une équipe au titre.
Non, t'as tout à fait raison.
C'est comme si il y a 20 ans en arrière, on rassemblait Michael Jordan.
Attention, Damien Magic Johnson arrive et tout, il a les. Ça souffle là.
C'est vrai, mais regarde,
Larry Bird.
Non, mais ce qu'on oublie, pourquoi Michael Jordan n'est pas parti des Bulls ? Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les Bulls lui ont proposé 36 millions de dollars la saison.
D'accord.
Donc, c'est sauf quand même quelque chose. S'ils avaient refusé, il aurait pris sa retraite. Charles Barkley, il n'est pas parti des Phoenix Suns pour la seule et bonne raison qu'ils lui ont proposé son contrat. Après, il est parti à Houston quand même.
Non, mais il y a aussi. Non, puis il y a l'attrait, je pense, extra-sportif avec, je pense, Miami qui est quand même beaucoup plus affriolant que Cleveland, avec une vie nocturne autrement plus.
J'ai été cet été, je peux vous dire qu'il a fait un bon choix, LeBron James.
Voilà, donc il y a ça. Et puis, puis c'est vrai que ça va être un trio incroyable. Il y a longtemps qu'on n'aura pas vu ça en NBA. Dwayne Wade, Chris Bosh et trois joueurs et LeBron, du coup, réunis sous la même tunique. Ça va être énormissime. Vous avez dû suivre aussi vite fait le transfert de Joakim Noah, la validation, la prolongation de son contrat.
12 millions de dollars, c'est
qui va en faire le sportif français le mieux payé du sport de haut niveau. Donc, moi, je suis pour ma part ravi de.
Français
qui garde. Oui, français.
Français.
Français, oui. Oui, monsieur le Pont-Aven. Français.
Alors, Brice, il n'est pas d'accord.
Ah, ça c'est une autre histoire. Moi j'avais pas grand chose à rajouter. J'étais content de voir que vous étiez partagé sur les avis. C'est vrai que c'est autrement deux sports presque différents, l'Euroleague et la NBA. Pourtant on a presque les mêmes règles, on a un ballon, on a le même nombre de joueurs qui s'affrontent. Mais c'était, je pense, d'un point de vue tactique aussi différent, très certainement. Et puis comme a été révélé tout à l'heure, il y a une espèce de play-off qui prend enfin son sens en NBA, alors que toutes les matchs de championnat c'est un peu particulier. Non, moi j'en avais une petite pour vous gratter et mieux vous connaître quand même, messieurs. Si je vous dis justement qu'on est sur une radio, moi j'aimerais savoir vite fait, quoi, là, parce qu'il y a des auditeurs qui vous écoutent qui sont pas que basket ou sport. Vous écoutez quoi, vous les mecs, en dehors de. Dans votre MP3 ou dans la voiture, c'est quoi qu'on écoute?
Le basketteur, c'est le rap. Hein.
Ouais.
Non, pas
R&B, toujours. R&B, rap, bon,
pas
j'aime.
Que.
Non, pas que. YouTube, j'adore, on adore, on se met ça avec Ben.
Tout,
on écoute tout.
YouTube.
Pas de couleur plus qu'une autre, Ludovic?
Phil Collins. Moi, de tout, ce qui est étranger, on va dire plus du rap quand même. Mais côté français, de tout, la variété, j'aime bien Raphaël. J'aime beaucoup Raphaël.
Alors, on va en savoir un peu plus et je vais prendre sur moi le CSA, Kivan, parce que j'en avais une mignonne aussi, pour savoir si le sportif de haut niveau qui doit faire gaffe à son alimentation, très sérieusement, il y a parfois sûrement des entorses. C'est quoi le super plat là qui vous donne envie, ou alors vous osez pas trop le dire au coach ou le montrer aux autres? Il y a un super plat comme ça dans votre gourmandise qui ne vous est pas forcément autorisé, sur lequel vous vous laissez aller?
Moi là, il y en a un, ça fait 2 mois j'ai envie d'aller au McDo.
Je
résiste. Non,
non,
c'est pas bon. C'est pas qu'on peut pas, c'est que c'est pas bon. Donc
on y allait l'autre jour, Ludo.
Quand je passe, je vois les
restauration rapide.
J'ai qu'une envie, c'est
restauration rapide aussi, Philippe, toi.
Du porc au palourdes.
Non. Quand c'est des plats faits par ma maman, bien portugais, mais bon, c'est pas trop conseillé, quoi.
Et du porc au palourdes, dans
pas mal, de gras, quoi.
Et moi, c'est la tartiflette.
Et puis surtout, j'ai reçu 10 emails et
raclette.
Ah, mais ça, c'est magique. 10 emails pour savoir si le basketteur professionnel prend soin de son corps et du coup, c'est un coutumier de l'esthéticienne ou du salon de beauté. Voilà.
Non.
Question très importante.
Non. On prend soin de son corps.
Si, Ludo aussi. Ah, si, Ludo, il a un fan. Il adore le look de Cristiano Ronaldo.
Ah, ouais.
Donc,
si. Non, moi, j'aime bien
très attention à l'esthétique.
Je vais pas non plus dans des salons.
Allez,
merci
de votre présence. On va bientôt fermer le Café des Sports. Juste un rappel de l'actualité sportive de ce week-end. Vous allez pouvoir retrouver samedi à 18h le FC 27 en direct sur Principe Actif avec l'organe vocal. Également à 18h30, ça doit être au Gymnase du Canada, la première rencontre à domicile de l'EVB. Pendant ce temps-là, messieurs, vous serez du côté de
Nantes,
si ma mémoire est bonne. L'occasion de revoir des amicalistes, Ludo, d'avoir un accueil plus ou moins chaleureux selon comment c'est fini l'aventure.
Pas sûr, ça devrait aller.
et puis bah voilà, il y aura pas de rugby et je crois qu'on a à peu près fait le tour. Passy doit être en déplacement et puis on en a pas grand-chose à faire de toute façon. Ouais. Voilà, on va fermer ce qu'a fait les sports, messieurs. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis
merci
bah, bonne saison à vous. Et puis j'ai deux nouvelles, une bonne, une mauvaise. La bonne, il pleut pas dehors. La mauvaise, c'est qu'on ferme.
Essai de Christian Dominici, c'est un génie.
Essai. Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but !
Et troisième
et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute.
Oh là là, chute de Mélanqui juste devant Franck qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Chapot est parti. L'Express, le TGV est parti, Chapot, 958, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.